Merci beaucoup, Sophie. Merci, Sophie et Maude, pour l'accueil dans ce séminaire, qui est un haut lieu de l'histoire de la mode. Donc, c'est vraiment très, très agréable de pouvoir venir partager des recherches. J'ai fait un exposé assez général et je vois que j'avais mis 1950, qui était beaucoup trop ambitieux, parce qu'en fait, je pense que je vais surtout parler de l'entre-deux-guerres. Et donc évoquer cette recherche en cours. Comme le dit Sophie, c'est une recherche au long cours aussi. Et donc j'ai aussi essayé de faire quelque chose de relativement général, puisque je pense que comme on est dans un séminaire, il peut y avoir un intérêt pour ouverture du sujet, mais n'hésitez pas si vous avez des questions après sur des choses plus particulières. Donc je crois que je vais commencer parce qu'il y a un peu un point commun entre tous les historiens et historiennes de la mode, qui est qu'on se rend compte que, comme industrie, la mode a été souvent laissée un petit peu de côté. Par exemple, des histoires transatlantiques. Il y a beaucoup d'histoires transatlantiques dans lesquelles, finalement, on parle pas tellement de la mode. On parlait tantôt, par exemple, du livre de Victoria de Gradia, etc. Des ouvrages qui sont très importants, où on apprend beaucoup de choses sur les relations transatlantiques. Et puis, on se dit, tiens, mais au fond, la mode, et comme le disait très bien Sophie en introduction, avec notamment le cas de Vogue, on voit parfois que les circuits de transmission et d'échange vont dans des sens un petit peu auxquels on s'y attend pas. Et donc, regardez la mode. On a vu aussi avec Nancy Green que c'est un sujet gigantesque. Et donc, je voudrais aussi amener vers un point plus précis, qui est ici d'examiner la propriété intellectuelle, les conditions légales, mais aussi de pratiques dans lesquelles les entrepreneurs de mode vont être appelés à travailler. Et ça veut dire aussi se demander un petit peu qui sont ces entrepreneurs. La notion de création est très importante, mais de création, j'ai envie de dire, à tous les étages, dans la couture, mais aussi comment créer des vêtements qui soient portables, qui soient plus populaires, etc. Et finalement, cette question de la copie, de la transmission des modèles, de la contrefaçon, c'est aussi un point de rencontre et aussi un point de tension. C'est un point où les opinions, les visions vont se rencontrer, mais aussi s'affronter. On a tout un champ lexical qui parle de bataille, de pirates, de conquête des marchés, etc. Donc c'est aussi parfois là où ça fait mal. Et donc comment est-ce que les entreprises fonctionnent avec le droit? Des entreprises qui, quand je dis qu'elles ont parfois été négligées, c'est fondamentalement à cause de la forme de ces entreprises, du type d'entreprise. On a beaucoup d'entreprises qui sont des PME. Alors, on a aussi des entreprises plus importantes. Et c'est d'ailleurs assez amusant, parce que quand on regarde les grosses maisons de couture de l'entre-deux-guerres, il y en a qui sont en fait des poids lourds. Quand on regarde les Lelong, les Chanel, etc., on a des milliers d'ouvrières et employés. Et on a déjà une échelle importante. Mais le gros du secteur, on peut dire que ce sont quand même des PME. Très peu d'entreprises vont en bourse, donc très peu sont obligées de déclarer leur comptabilité. Et donc ça, c'est ce que beaucoup d'excellents, importants historiens de la mode ont souligné, c'est que pour l'historien qui veut aller vers l'économique, l'entrepreneurial, etc., c'est un sujet qui échappe un petit peu. Il faut vraiment aller dans du très petit, de la micro-histoire, etc., ou alors faire ce qui marche bien aussi, c'est vraiment d'aller vers des études de cas. Mais donc, c'est un sujet qui échappe parfois bien à l'historien des entreprises. Il faut s'accrocher, j'ai envie de dire. Et donc, ça fait d'autant plus plaisir de voir une journée consacrée à ça, parce qu'on se dit, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer. Donc, beaucoup de sociétés privées. Une manière aussi d'entrer justement, du coup, dans cette activité entrepreneuriale, c'est de s'interroger sur ce qui lie ces entreprises, sur les associations patronales notamment. Nancy Green a évoqué les syndicats, mais on peut aussi aller voir du côté des associations d'entrepreneurs. Les deux peuvent se compléter, ou bien on peut adopter des perspectives différentes. Et là, il y a encore beaucoup de travail à faire également. Une possibilité étant de regarder donc à ce qu'on peut appeler quelque part le management à l'extérieur ou au-delà des entreprises, se disant que si à beaucoup de PME, c'est difficile d'obtenir une documentation substantielle sur le management à l'intérieur de l'entreprise, mais quelque part, ces associations patronales ajoutent un management collectif ou des pratiques collectives qu'elles partagent au niveau du management, de la gestion. Ça peut être la gestion des personnels, par exemple. Les entrepreneurs se parlent, échangent de l'information. Et ici, dans mon cas, dans le cas que je vais un petit peu développer avec vous aujourd'hui, on est dans le développement de pratiques communes en termes de propriété intellectuelle, de protection des créations, de protection des pratiques, etc. Et donc, les syndicats patronaux permettent parfois de suppléer à des archives d'entreprise qui peuvent être fragmentaires. Je vais pas tellement parler des archives d'entreprise de mode, parce que je pense qu'il y a eu des journées d'études ici là-dessus, et que c'est un très vaste sujet, donc il vaut mieux pas développer trop ça, mais rester plutôt ici dans le cœur de ce qui est, voir ce qu'on peut faire des syndicats patronaux. L'économie politique du sujet importe aussi, de tout cet objet d'étude, et notamment pas perdre de vue l'impact des politiques des villes et des politiques des États, avec un enjeu aussi très complexe ici, qui est de voir si on compare des pays, si on compare des villes, on peut parler aussi de clusters, de hubs, de centres créatifs, et donc de pas perdre de vue qu'on peut être avec des échelles très différentes et qu'on peut aussi parfois décider de les marier un petit peu dans certaines circonstances. Ici, avec la propriété intellectuelle, les cadres nationaux sont quand même importants, puisqu'on est dans le domaine des lois. Mais en même temps, dans l'étude sur laquelle je travaille, c'est Paris et New York. Donc on continue à parler de ville, même si on sait bien que le cadre national pour parler de loi est très très important. Enfin, la mode est en partie une économie matérielle. On échange et on fait circuler pas seulement des vêtements, mais aussi des patrons, des toiles, des idées. Et donc c'est aussi l'articulation de ça, d'une économie matérielle, le tissu, la matière, le vêtement qui circule, mais aussi l'idée du vêtement, le design, la marque, etc. Et on a cette imbrication qui rend le droit et les pratiques complexes, riches, intéressantes, et leur étude, donc du coup, d'autant plus ramifiée. La propriété intellectuelle joue un rôle, j'ai envie de dire, de plus en plus important. Et je vous invite à, par exemple, regarder sur Internet un site comme The Fashion Law. Il y a des sites web qui sont entièrement dédiés à ça. Et les avocats sont devenus partie prenante et indispensable de la réussite d'une entreprise de mode. C'est assez intéressant de discuter avec des avocats qui ne font que ça, que ce soit en interne pour l'entreprise ou comme consultant en externe. C'est vraiment un champ d'activité foisonnant et à part entière. Comment est-ce que tout ça commence ? Bon, on peut remonter, faire une archéologie. Je crois qu'il y a plein de choses à faire sur le 19e, qui est une période que je connais très très peu. Il y a aussi cette tendance à toujours dire les Français innovent, les États-Unis copient. Ça, c'est le stéréotype. C'est un peu l'idée reçue de départ. Et évidemment, la réalité montre une situation beaucoup plus riche. Ce que les Français disent eux-mêmes, en tout cas pour l'entre-deux-guerres, c'est que la copie, ça commence en France. Il y a des bureaux, des copistes, on les appelle aussi des pirates, hein, qui sont très bien implantés en France, qui sont français. Les procès contre les copistes deviennent courants pendant le 19e siècle. Et ici, vous avez les sœurs Callot, dont notamment Marie Gerbert Callot était une des pionnières de la lutte contre la contrefaçon en France, avec pas mal de succès. Et puis, cette lutte va être prise, on connaît très bien, notamment grâce aux travaux de Nancy Troy. Cette lutte a été reprise notamment par Madeleine Vionnet, qui était une ancienne de chez Callot. Et ce qui est important de voir, c'est que je vais revenir sur le droit. Donc on a le droit, mais aussi l'importance de créer une jurisprudence. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc d'emblée, on voit certains couturiers qui s'emparent du cadre législatif, qui vont l'utiliser pour bien sûr faire leur promotion, pour se défendre, et qui vont créer un corps de jurisprudence qui va renforcer le pouvoir des couturiers français sur leur création. On voit aussi que cette jurisprudence évolue. notamment avec en France la possibilité de coupler l'utilisation de la protection industrielle, de la propriété industrielle, donc notamment les modèles déposés, etc., pour ceux qui ont déjà un petit peu regardé ça, et le droit d'auteur. Le droit d'auteur qui est la notion qui est la plus proche de ce qu'on appelle en anglais le copyright. Et donc en France, il y a cette possibilité, c'est la thèse de l'unité de l'art, d'allier propriété industrielle et droit d'auteur, ce qui crée un appareil très puissant, en fait le plus puissant du monde, hein, pour les créateurs de mode. Il y a peut-être l'Allemagne aussi, ça il faut demander à Sophie qui est occupée à développer tout ça. Mais donc un appareil de protection très puissant, très efficace, et les couturiers français commencent à obtenir de manière croissante des condamnations. Et quand on regarde les procès, on voit que cette jurisprudence se construit, il y a des revers. L'histoire a largement oublié que Vionnet a perdu des procès. Il y a eu de nombreux appels. C'est pas une histoire linéaire. Ce qu'on voit cependant, c'est qu'à partir des années 30, le droit d'auteur occupe une place croissante dans les victoires des couturiers français contre leurs contrefacteurs. Procès qui ont lieu à ce moment-là en France, et des contrefacteurs qui peuvent être français mais aussi étrangers. Hein, je suis belge, et beaucoup de ces vilains copieurs du début sont belges parce que Bruxelles, c'est près de Paris, et donc il y a toute une série de réseaux qui profitent du fait de s'implanter dans un pays étranger, mais très voisin, très proche, parlant la même langue, etc., et qui profitent de la situation en essayant de développer le réseau de copies. Et là, on est dans un marché secondaire de la France, hein, secondaire très proche, etc. Et donc, les couturiers français vont essayer de défendre leur création par rapport à ces copistes français et étrangers. Mais ce n'est pas tout. Ce que depuis Poirès, on a très bien vu avec des travaux sur le 19e, sur les travaux de Nancy Troy, etc., les couturiers parisiens sont très préoccupés par, bien sûr, la copie américaine. Et ce discours se développe très très fort, ce contexte de concurrence. Et une question que je me suis beaucoup posée au début de cette recherche, c'était au fond, est-ce que ça date de la crise, de la Grande Dépression ? Mais pas du tout. Ça commence bien avant, c'est là bien plus tôt. Cette concurrence est très présente dans les discours. Et elle est tellement présente qu'elle est souvent évoquée comme étant le moteur, la raison pour laquelle les couturiers parisiens essayent de s'implanter aux États-Unis. Ce que je trouve quand même au final assez fou, que les couturiers disent « on va aux États-Unis ». Et ce n'est pas pour conquérir les États-Unis, ce n'est pas pour conquérir les marchés, c'est pour protéger notre propriété intellectuelle, c'est pour protéger notre design. Je ne dis pas que c'est la seule raison, hein. Mais on l'entend dans le discours, on l'entend dans les motifs, les moteurs, les motivations. Hein, les motivations, tout cet imaginaire aussi des couturiers parisiens qui ont une relation très complexe avec les États-Unis, qui sont à la fois très flattés de retrouver leur nom dans les grands magasins et qui en souffrent aussi énormément. Vous avez au milieu un modèle déposé de Madeleine Vionnet qui fait une première percée au milieu des années 20 vers les États-Unis. Et à droite, vous voyez son livre de vente. Elle emporte toute une collection pour aller la vendre à New York. Et donc, toute cette collection se trouve au milieu de ses livres de vente parisiens. On voit toute la collection qui part à New York. Elle va essayer de s'implanter, mais ça ne va durer finalement que quelques mois. Elle va continuer à travailler avec des manufacturiers américains au long cours, dessinant de temps en temps des modèles, etc., et essayant de construire des alliances commerciales. Mais l'idée d'une maison Vionnet new-yorkaise va faire long feu, pour un tas de raisons, y compris la capitalisation, j'entre pas dans les détails ici. Un autre cas, c'est aussi Bou et Sœur, que vous trouvez ici, qui fondent une maison new-yorkaise qui va fonctionner au long cours, et donc qui va, elle, être une des rares à arriver à s'implanter aux États-Unis, où la concurrence est très très rude pour les Français. Et on voit dans ses premières motivations de déposer une tête de pont aux États-Unis. Donc, on voit dans les motivations le problème de la copie et dans les difficultés, le problème de capitalisation notamment, mais aussi de s'adapter à un contexte commercial, législatif, de langue, de culture qui est très différent. Ici, un petit flash très rapide avec quelques chiffres simplement sur ce Garment District de New York pour dire qu'on a à la fois un secteur d'activité économique qui est florissant. C'est un des secteurs industriels les plus importants de la ville. New York produit aussi vraiment donc, dans Manhattan sont produits une très très grande partie des vêtements qui vont être exportés vers les marchés américains et secondaires, et les conditions de travail sont relativement, le sweatshop existe toujours, hein, mais les conditions de travail sont relativement bonnes compte tenu des paramètres socio-économiques de l'époque, avec une grande syndicalisation des travailleurs, des salaires relativement élevés. Je dis bien relativement parce qu'encore une fois, il y a des ateliers, des pratiques, etc., qui sont bien sûr tout à fait incorrectes et exploitatives des travailleurs. Ce que je voudrais garder de ce petit, de cette petite incise très rapide et très modeste là-dessus, c'est que les entrepreneurs de mode new-yorkais disent que le risque majeur pour eux, c'est le design. Le risque majeur, c'est de savoir ce qu'on doit reproduire, ce qui va se vendre, avec l'angoisse de rester avec des stocks sur les bras. Parce que les stocks, ça coûte cher, ça prend de l'espace, ça doit se vendre plus ou moins à perte. Et donc, ce qu'il faut essayer pour ces entrepreneurs de ce garment district florissant, c'est d'arriver à avoir du flair et à savoir ce qu'il faut adapter pour le marché américain et comment il faut le rendre portable pour les Américaines. Et donc, il y a tout ce jeu de la transmission, mais aussi l'émergence entre les deux, entre la France et les États-Unis, l'émergence d'experts qui vont vendre des rapports de tendance, tous des réseaux d'acheteurs, etc., qui vendent leurs talents. Il y a aussi, bien sûr, du design original à New York. Et il ne faut pas que cette dichotomie transatlantique nous fasse oublier qu'il y a des entrepreneurs qui sont super créatifs. Ici, notamment, on le voit très bien, il y a plusieurs numéros du magazine Fortune qui montrent très très bien à la fois la puissance industrielle du Garment District, mais aussi des gens comme Hattie Carnegie ici, qui produisent vraiment leur propre design ici de luxe. Hein. On est dans du très grand luxe et des prix qui sont finalement assez proches de Paris. Alors beaucoup de ces designers new-yorkais de haut luxe importent aussi des modes parisiennes avec une autorisation pour reproduire en petite série, pour reproduire avec très haute qualité et un label dessus. Ils ne payent pas de royalties aux designers français, ils payent un montant fixe à l'achat, à la collection. Donc ça, c'est tout le commerce très important, le commerce légal. Et il y a notamment les travaux d'Alexandra Palmer sur les rapports France-Canada là-dessus, qui sont tout à fait exemplaires et qui permettent de vraiment comprendre ce qui se passe avec tout cet achat légal, tout cet achat autorisé. Donc on retrouve ça, bien sûr, à New York. La question étant qu'on a toute une hiérarchie des productions et que plus on descend dans les gammes de produits, moins les manufacturiers sont prêts à investir dans le design. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, ce que les Français appellent la piraterie se développe. Ici, un autre exemple, Elizabeth Hose, je pense que Sophie en a parlé dans son introduction, il me semble. Elizabeth Hose, qui a laissé des mémoires, qui était une femme de très grande intelligence, qui a fait plein de choses différentes dans sa vie, qui a aussi été écrivain, et qui a été copiste dans les années 20. Et qui, dans ses mémoires, aussi montre quelque chose de remarquable, qui est le travail jeune comme copiste pour joindre les deux bouts, et puis le repentir, en disant à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était une profession qui n'en était pas une, qui n'était pas correcte. Elle se rend compte qu'elle est passée du mauvais côté du miroir, et elle repart aux États-Unis et elle change, et elle devient elle-même designer d'ailleurs, entrepreneuse, etc. Et c'est intéressant parce que ça se passe au milieu des années 20, et ça nous montre aussi le changement de perception par rapport à la copie. On copie un petit peu, on adapte, etc. Et puis tout d'un coup, ça devient de la piraterie. Ce qui était pratique d'entre deux eaux devient illégal, devient, on utilisera en anglais même le mot crime. Et donc, on est aussi dans une période où les catégories mentales même de ce type de pratique changent. Et donc là, on peut regarder les discours, etc. Les mémoires de Hose sont largement reproduites et accessibles, et je vous conseille le bouquin parce que c'est assez délicieux à lire aussi. C'était une femme super, super intelligente. Et voilà, donc on a aussi ce type de discours et d'image. Donc ce que vous voyez à droite, c'est aux États-Unis la reproduction d'une robe qui est censée être identique. Hein, vous voyez qu'on change un petit peu les accessoires, etc., pour rafraîchir l'allure. Mais ce qu'on nous montre là, au fond, c'est la même robe pour toutes les catégories de prix, avec l'idée que les États-Unis soient un pays vraiment démocratique et que donc ça a des conséquences qui vont très très loin. Parce que ça signifie que si on est une vraie démocratie, la secrétaire devra pouvoir porter la même chose que la grande bourgeoise. Et ça va jusqu'à des discussions au Congrès américain pendant l'entre-deux-guerres. Avec des discussions, j'y reviendrai tout de suite en vous donnant un petit peu plus de, enfin, des petits détails factuels là-dessus, mais il y a des discussions sur la loi. Est-ce qu'il faut élargir le copyright aux productions de mode? Et les conclusions du Congrès américain, ce sera cette image à droite. Ce sera, il faut surtout pas trop protéger la création de mode, parce que tout le monde doit pouvoir s'habiller de la même façon. Et que les États-Unis, c'est une réelle démocratie de la mode. Donc il y a un parti pris qui est aussi politique, et puis qui pose plein de questions, et évidemment qui pose des grosses difficultés aux entrepreneurs français, qui eux, simplement, voient ça tout à fait autrement. Donc il y a vraiment là une différence de perception. Après, on peut se dire, mais il y a des copieurs partout, hein, c'est par là qu'on commence, et donc il faut voir si cette différence de perception se voit aussi dans les pratiques. Et là, on a le New York Times qui nous montre l'original de Paris et la reproduction américaine sur deux jumelles. Hein, donc, on joue beaucoup là-dessus. Et il y a donc tout un discours qui se développe, toute une culture qui se développe. Il y a aussi dans tout ça la crise, avec une diminution dramatique des exportations de haute couture française, hein, centrée à Paris. Donc on voit ici, et on le voit pas seulement en termes monétaires, parce qu'il y a le franc et les fluctuations du franc qui peuvent nous jouer des tours, mais on le voit aussi sur la valeur au poids, que j'aurais dû ajouter. Donc sur le poids des exportations, simplement, hein, le poids du tissu qui est exporté. Donc ce qu'on voit, c'est que pendant les années 20 et 30, les exportations de haute couture chutent. Et donc une question, c'est est-ce que dans cet intervalle, ça veut dire qu'on copie plus, ça veut dire qu'on exporte plus des faux, des croquis illicites, des modes piratés, etc. C'est évidemment très très difficile à mesurer, mais on en voit aussi beaucoup de choses dans les discours. Et puis il y a la question des réactions des Parisiens. Comment est-ce que les Parisiens gèrent leur marché américain? Comment est-ce qu'ils gèrent la copie? Comment est-ce qu'ils vivent avec ça? Bon, ici, j'ai pris Lucien Lelong parce qu'il est assez connu pendant la période. Hein. C'est vraiment un couturier phare. C'est quelqu'un qui voyage énormément. Il est missionné par le gouvernement aux États-Unis pour aller explorer les débouchés des Français aux États-Unis. Et par exemple, on le retrouve dans les minutes du Fashion Group, qui est une association importante de professionnels américains de la mode. Lelong va leur parler au début des années 30, et Lelong ne peut pas cacher le problème de la copie. Il est cuisiné par, je pense c'est Edna Woolman Chase, qui lui demande, oui, mais qu'est-ce que vous en pensez? Et on voit que Lelong est dans une position très délicate, parce qu'il a envie de respecter ses collègues américains, il va leur dire, oui, le rayonnement français, c'est très important, etc. Et en même temps, oui, que peut-on faire? Et donc, ce dialogue s'engage là en public, parce que le Fashion Group, c'est une institution, une association qui invite à des réunions sur le temps de midi, qui invite des centaines d'entrepreneuses, hein, c'est un groupement de femmes au départ, donc beaucoup d'entrepreneuses et aussi d'entrepreneurs américains, new-yorkais de la mode. Et donc tous ces gens sont venus écouter Lelong, sont venus lui demander des prédictions pour la saison future, et Lelong n'a pas du tout envie de donner ses prédictions. Et puis on voit qu'il est très embêté quand on lui demande « qu'est-ce que vous pensez de la copie, hein? Comment est-ce qu'il faut gérer ça ?» Comment est-ce qu'il faut naviguer dans toute cette complexe culture transatlantique. Et Lelong va poursuivre une très belle carrière. Il est aussi président de la Chambre syndicale de la couture parisienne à partir de 1937 pour une très longue période. Il va aussi, comme l'a bien exploré Dominique Veillon, il va aussi être la personne en charge pendant la guerre. Ce que je vous ai mis là en bas à gauche, c'est un croquis d'après Lelong par une maison de belles copies new-yorkaises qui s'appelait Davidoff. Et donc, il y a toute une série de croquis Lelong qu'on peut trouver. Par exemple, ça vient des archives du FIT, où il y a des centaines de croquis d'après des couturiers parisiens. Maisons de belles copies, et puis des maisons aussi qui font des croquis, des adaptations, sans rien demander. Donc, et ça va être la question croissante pour les Français de se dire, est-ce qu'on arrive à contrôler, voire réprimer ces pratiques-là? Alors, Lelong a plus d'un tour dans son sac, il va faire ce qu'on sait bien, hein, qui est l'avenir de la couture aussi. Lelong va développer des produits dérivés, notamment le parfum. Et ce que Lelong va faire aux États-Unis, qui est un petit peu spécial, c'est qu'il va engager notamment le gourou des relations publiques, Edward Bernays, qui a beaucoup écrit sur les relations publiques et un peu sur la mode dans Propaganda, dans son pamphlet Propaganda. Bernays était fasciné par le pouvoir de séduction de la mode sur les masses, et Le Long simplement va l'engager. Et c'est un peu, beaucoup d'autres entrepreneurs français vont commencer à engager des Américains. Et donc Le Long va demander à Bernays de s'occuper de son agenda social dans ses visites aux États-Unis, etc., de faire sa promotion. Donc quelque part, Le Long répond à la contrefaçon, à la copie, en devenant assez américain. On va dire de lui qu'il américanise ses méthodes de promotion, la publicité, et puis bien sûr les fameuses robes d'édition en faisant de la couture en série. Alors ce n'est pas pour les masses, les robes d'édition ça reste une très haute qualité, des prix plusieurs centaines de francs à l'époque par robe, etc. Mais donc on voit que Le Long lui répond par l'appropriation aussi de toute une série de méthodes de travail américaines. Alors si on pousse ici, on sort de ces généralités, on pousse un petit peu plus loin le problème en se disant mais regardons de plus près ces droits de propriété intellectuelle de manière croisée entre les deux pays. Donc ici on doit utiliser le cadre de nations puisqu'on est dans les droits de propriété intellectuelle. Après ça va changer avec l'intégration européenne, mais ça c'est beaucoup plus tard. Dans les années 30 on est vraiment dans les droits de propriété intellectuelle nationaux. Il y a des conventions internationales, bien sûr, mais les pays peuvent choisir ce que ces conventions internationales vont recouvrir. Et les États-Unis vont choisir de ne pas intégrer la mode, notamment dans le copyright. Alors, de manière générale, les droits de propriété intellectuelle ont des frontières donc mouvantes qui peuvent évoluer avec le temps. Et c'est pour ça que c'est important de regarder les pratiques des avocats, mais aussi de penser à ça comme historien, parce que ça permet de voir que ces frontières changent avec le temps. La jurisprudence, comme je le disais tout à l'heure, a un impact important. Pour encore complexifier un peu l'affaire, les droits de propriété intellectuelle sont complexes quand on est dans des domaines frontaliers. Ici, on est vraiment entre l'art et le commerce, et donc on peut prendre un petit peu des deux côtés. Ou on peut aussi se trouver dans un vide juridique. Donc aux entrepreneurs aussi, là, de s'emparer de la loi le mieux possible. Et donc la protection qu'un entrepreneur de mode peut espérer est différente selon les pays. Et si on s'intéresse à un cadre d'histoire des entreprises, on voit que pour un entrepreneur, c'est difficile de travailler avec des lois internationales qui ne sont pas du tout unifiées. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs en histoire des entreprises, en théorie, en business history, etc. Des droits asymétriques présentant des différences importantes sur le plan international, pose des difficultés aux entrepreneurs. Et encore une fois, gardez à l'esprit qu'au-delà du droit et des normes, il y a des pratiques, par exemple des arrangements à l'amiable, et ça on le voit via les associations professionnelles par exemple, via les archives des entreprises quand on a la chance d'en avoir. Et on peut enfin regarder aussi la transmission des savoir-faire. Par exemple, il y a des travaux passionnants sur la cuisine, la transmission des savoir-faire en cuisine, et les pratiques, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et donc ça permet aussi de garder une vue bien ancrée dans ce qui se passe en entreprise et pas seulement les règles du droit. Ici, je vous ai fait un petit résumé qui simplifie un peu simplement les lois utilisées, l'origine des lois utilisées. En France, donc droit d'auteur, protection industrielle combinée avec des révisions successives. Il y a de nouveau des révisions très importantes dans l'après-guerre, au cours des années 50. La jurisprudence et en France peu d'utilisation du brevet. On voit le brevet pour des utilisations plus techniques quand quelqu'un crée un nouveau tissu, par exemple pour une création d'un flacon de parfum avec un modèle spécial, on va voir l'utilisation du brevet, mais c'est minoritaire par rapport au dépôt de modèles en termes de protection industrielle et à l'utilisation au recours dans les procès de la loi sur le droit d'auteur. Aux États-Unis, le système de patente est excellent, est très démocratique, n'est pas trop cher. Le problème, c'est que la patente est quand même encore trop chère et est trop lente pour le rythme de l'innovation en mode. La patente n'est pas adaptée. Il y a une patente pour le design, mais ça ne répond pas du tout aux demandes de protection des industries de la mode. Un des problèmes, c'est le rythme d'innovation en mode, qui est très rapide par rapport à d'autres secteurs. Et donc, il faut imaginer un droit qui peut répondre à ces rapides cycles d'innovation, de plus en plus rapides d'ailleurs. On parle de fast fashion, bien sûr. Et une protection de la marque qui, en fait, de manière peut-être un peu inattendue, est jusqu'au milieu des années 40 pas si efficace que ça aux États-Unis et pas si efficace que ça pour la mode. Donc la loi américaine rend l'entrepreneur bien faible s'il veut protéger son innovation en termes de design, pas d'innovation technique, mais encore une fois pour la mode il n'y a pas tellement cela. Et en réponse, les entrepreneurs de mode ne vont pas du tout rester passifs, mais vont faire un lobbying très intense au niveau des pouvoirs publics, avec des associations, certaines qu'on connaît bien, hein, Chambre syndicale de la couture parisienne, surtout après qu'elle se sépare de la confection dans les années 10. Et puis en France, des associations spéciales. On retrouve Madeleine Vionnet, qui engage plusieurs avocats à la suite, et qui se trouve à la tête d'associations spécifiques pour la protection des arts plastiques et appliqués, des industries saisonnières. Donc c'est parfois la mode dans un sens plus large, hein, ça peut inclure d'autres protections d'industries d'artisanat, d'industries d'art, etc. Mais vraiment là, on assiste à la fondation d'associations de professionnels juste pour protéger, pour aller faire du lobbying, pour aller dire « il faut construire notre jurisprudence, il faut se battre », etc. Donc ce sont des entrepreneurs qui vont dédier toute une partie importante de leur activité simplement à ce problème. Aux États-Unis, le Fashion Group, hein, auquel Le Long était invité, dont je vous parlais tout à l'heure, le Fashion Group ne prend pas parti en tant qu'association, à ma connaissance, sur la question des droits de propriété intellectuelle. Le Fashion Group va beaucoup plus s'intéresser à faire la publicité des entreprises de la mode et aussi à rassembler les femmes professionnelles. Donc ça, c'est un tout autre combat très important, mais que je ne vais bien sûr pas développer ici. Et puis une autre association, la Fashion Originators Guild of America, fondée par Maurice Rentner, qui est un manufacturier qui fait du haut de gamme à New York. Et Rentner, au fond, achète des dessins, des modèles à Paris, avec permission de les reproduire. Donc Rentner est dans le droit chemin. Et il a envie de protéger ce marché-là contre les manufacturiers américains qui font des copies sauvages. Donc ce qu'on voit avec un cas comme Rentner et sa FOGA, c'est que le marché américain est fragmenté. Il n'y a pas que des copistes aux États-Unis, contrairement à ces discours dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Le marché américain est fragmenté, les entrepreneurs américains sont divisés. Et Rentner va aller très loin, il fait du lobbying auprès des pouvoirs publics pour qu'on change la loi américaine sur le copyright, pour qu'on y inclue la mode. Rentner travaille avec des avocats. Et puis, son association va instaurer un système privé d'enregistrement des modèles, un peu calqué sur le système français. Et son association va aussi faire des listes noires de pirates, de contrefacteurs. Et il va rassembler jusqu'à plusieurs centaines d'entrepreneurs pendant l'entre-deux-guerres. Et puis, il va avoir des problèmes avec la justice pendant les années 40, puisque finalement, le travail de Rentner, son association, vont être vus comme empêchant la libre concurrence. Et donc, à un moment donné, ils vont être interrompus par l'autorité judiciaire aux États-Unis. Mais donc, on a là un vrai combat qui se passe aux États-Unis et qui va beaucoup plus loin que cette dichotomie créateurs français et pirates américains. Et tout ça complexifie grandement l'histoire et montre aussi là des ponts, peut-être insoupçonnés, entre Américains et Français qui vont poursuivre la même chose, poursuivre le même type d'initiative et essayer de se mettre ensemble et trouver toute une série d'initiatives communes. Avec deux grandes visions qui se détachent. Hein. L'une selon laquelle on ne peut pas protéger le design de mode, selon laquelle la mode appartient à tous, tout le monde a le droit de copier, de s'approprier, etc. Et puis une vision qui est la vision du créateur de mode comme artiste. Il ne faut pas oublier quand même que même à la Chambre syndicale de la couture parisienne, il y a toujours une tolérance. L'adaptation par la petite couturière, le faire chez soi, etc., c'est bien sûr toujours toléré. Mais il y a aussi la volonté de protéger le travail du couturier comme artiste avec des gens comme Madeleine Vionnet. Et on voit là aussi qu'il y a des discussions, que ça bouge, qu'il y a des périodes où il y a même des querelles entre couturiers parisiens qui vont dire « on va trop loin » ou au contraire « on doit être intransigeant ». Et donc il y a toute une réflexion qui évolue au cours du temps et qui est aussi très fort liée à l'initiative privée des entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs là qui sont vraiment pionniers, très actifs, qui font de cette histoire de propriété intellectuelle un combat déjà pendant l'entre-deux-guerres. Et puis à la rupture de la Deuxième Guerre mondiale, je ne vais pas en parler plus parce que c'est un sujet en soi et ce n'est pas du tout le but ici, mais simplement pour dire que ça va être une de ces périodes déterminantes, il y en a plusieurs, hein, pendant laquelle les New-Yorkais vont prendre leur destin créatif en main. Et ici, on voit le maire de New York, Fiorello LaGuardia, qui est par ailleurs un personnage très truculent, qui s'adresse à nouveau au Fashion Group, où Le Long avait parlé en 1931 de la copie en marchant un petit peu sur des œufs. Et LaGuardia va dire, voilà, maintenant Paris va être coupé du monde. Nous devons encourager nos créateurs de mode. Et ce qui est très important ici, c'est que c'est comme un voile qui se déchire, parce qu'on se rend compte que dans le Garment District, on n'a peut-être jamais assez investi dans les créateurs de mode. C'est ce que dit LaGuardia, en tout cas, c'est son point de vue. Il dit qu'il faut arrêter de faire ce qu'on fait dans le Garment District, qui est de payer des créateurs, des designers à la demi-journée, à la journée. Il faut les établir en entreprise, il faut leur donner le droit de créer, il faut les libérer de tout ça, il faut leur donner du confort. Au fond, c'est un peu ce que font beaucoup de couturiers parisiens. Et donc, c'est l'ambition de renforcer la création à New York qui existait déjà. Et donc, c'est cette espèce de... On peut aussi refaire cette régression et se dire à partir de quand cette idée d'un destin créateur propre existe. Et on voit hein, des moments, ici, évidemment, avec la rupture de la guerre, hein, qui est quand même un moment assez exceptionnel. Et donc, l'idée qu'il faut créer à part, qu'il faut s'affranchir avec le destin qu'on connaît, qui est celui-ci. Et ça, c'est ma dernière... Dia, qui est que la couture parisienne va revenir avec le symbole de Dior et qu'en plus, c'est le côté qui se cache derrière tout ça. On voit de nouveau une copie. Hein. Bon, je vous ai mis le Macy's qui a une relation avec laquelle Dior a une relation très ambiguë. Est-ce qu'il faut leur vendre ou pas? Est-ce qu'ils sont assez corrects dans leur reproduction ou pas? Il y a tout un jeu là qu'on voit à travers l'histoire d'une firme comme Dior. Donc Dior qui a un fleuron, qui a une tête de pont, etc. Et qui va aussi être une entreprise à nouveau, comme l'a été Vionnet, super agressive par rapport aux contrefacteurs. Et Dior va faire deux choses. Dior va plus que jamais protéger en amont, donc avoir une politique de prévention beaucoup plus efficace que ne l'avait Vionnet et consort. Et puis en aval, continuer à poursuivre. Et ce qu'on va voir avec Dior, c'est aussi la première très grosse affaire qui s'appelle l'affaire Milton, qui commence en 1955 et qui va durer, traîner jusqu'en 1962, la première fois que les Français vont vraiment pouvoir aller aux États-Unis poursuivre un contrefacteur Frederick Milton, un contrefacteur américain qui faisait là des dessins, qui vendait un service de croquis faux, sans autorisation de Paris. Et pour la première fois, les couturiers français vont prendre leurs initiatives de poursuite des contrefacteurs et vont aller à New York et vont arriver à faire poursuivre un entrepreneur new-yorkais. Donc c'est véritablement un tournant dans les pratiques, en dépit de tout ce cadre législatif qui ne les y encourage guère. Et donc avec ce nouvel âge de la couture va coïncider aussi un nouvel âge de la création et un nouvel âge de l'anti-piraterie, j'ai envie de dire. Donc une histoire qui continue de se renouveler. Voilà, je vais m'arrêter ici en vous remerciant pour votre attention.
Est-ce qu'il y a des questions?
Merci. Bonjour. Je voulais savoir comment, en fait, en pratique, on pouvait justement venir pallier ce problème de la contrefaçon, parce qu'un couturier qui peut s'inspirer d'un modèle va peut-être changer le tissu ou va changer un bouton ou quelque chose. Comment après on pouvait dire voilà, vous m'avez copié, bon, le style New Look, on l'a vu tellement, ça, c'est difficile. Donc si vous avez quelque chose là-dessus, merci.
Merci. C'est une question qui est vraiment très importante et c'est vrai que au regard de ce droit, on se dit, mais comment est-ce que le droit et les pratiques peuvent correspondre ici? Je pense qu'en tout cas, un élément de réponse à votre question, c'est de regarder ce qui se passe dans les procès et quelle est la place du juge. Donc, ce que les couturiers vont faire, c'est, en France, avoir la possibilité d'effectuer des saisies, donc d'envoyer la police, y compris d'accompagner la police, chez les copistes présumés, de saisir le matériel incriminé et puis de l'apporter au tribunal, ça se passe au tribunal correctionnel, et ils mettent côte à côte l'original, donc Vionnet va venir avec sa robe, et la copie présumée. Et là, il y a toute une pratique d'évaluation. Et donc, ça veut dire que le juge a un énorme poids. Le juge peut décider qu'en dépit du tissu, le modèle est le même. Et ça peut varier légèrement. Et c'est là que la jurisprudence joue un rôle énorme, parce qu'une fois qu'on a un jugement qui condamne en disant, même s'il y a des petites variations, c'est une copie, eh bien, ça permet de continuer à construire des poursuites pour les couturiers. Donc, il faut bien sûr qu'un grand nombre d'éléments soient semblables. Et il y a tout un jeu qui consiste à mélanger les modèles un petit peu, par exemple, pour échapper aux poursuites éventuelles. Mais donc, il y a bien des procès dans lesquels le juge confond, met les modèles en parallèle et examine tous ces facteurs-là. Et en effet, c'est très important de voir comment la jurisprudence se construit avec le pourcentage d'exactitude pour qu'une copie soit reconnue ou pas. Comment jouer avec tout ça.
Merci beaucoup pour cette présentation. Je voudrais juste rebondir sur la question précédente. J'effectue moi-même des recherches, je suis avocate de formation. J'effectue des recherches actuellement dans le cadre d'une thèse sur la question de la protection des droits de propriété intellectuelle dans l'industrie de la mode. Et cette question est toujours très très présente dans la jurisprudence encore aujourd'hui. La fameuse question de où place-t-on le curseur entre inspiration et copie. Et une des choses qu'un certain nombre de créateurs peuvent mettre en place, c'est d'éduquer les magistrats. Les magistrats qui sortent de l'École nationale de la magistrature n'ont pas des cours sur l'histoire de la mode et etc., le design, bien malheureusement. Donc, il faut savoir que les magistrats de la deuxième chambre qui gèrent les questions de contrefaçon n'y connaissent souvent rien, donc ne savent même pas faire la différence entre une jupe culotte et un pantalon, donc toute la difficulté qu'un certain nombre de maisons essayent de mettre en place, c'est justement d'éduquer les magistrats, et c'est quelque chose qu'en effet Christian Dior a commencé à faire. Alors certaines on va dire maisons de fast fashion aujourd'hui vont dire que c'est un peu exagéré, que c'est du lobbying, etc. Mais il y a cette importance quand on juge de la contrefaçon. Un magistrat qui va juger de la contrefaçon, je ne sais pas moi, de produits ménagers, va devoir aussi gérer des questions de contrefaçon dans le domaine de la mode. Et donc voilà. Donc en effet, le magistrat a le dernier mot. C'est lui qui fait la jurisprudence. Mais donc du coup, un certain nombre de créateurs, et donc Christian Dior, ont commencé par justement éduquer ces magistrats. Et voilà. Et ce curseur entre copie et inspiration, malheureusement, il n'y a pas de réponse parfaite.
Merci beaucoup.
Et merci de votre présentation, qui était vraiment impeccable.
Merci, c'est très gentil.
Est-ce qu'il y a eu une évolution dans la jurisprudence vis-à-vis des relations entre les couturiers et les magazines? Paquin, notamment en 1908, avait fait un procès au chic et au chic parisien pour la reproduction de modèles qui étaient inspirés de ses collections. Est-ce que c'est des choses qui ont continué à exister dans les années qui ont suivi 1908, et comment ça a évolué? Et est-ce qu'il y a une différence de traitement entre ce type de copie et la mobilisation de certains critères juridiques pour la défense de ce droit-là?
Merci, une excellente question. Pour les débuts, la partie avant 14, etc., je vous encourage à parler avec Sophie, parce qu'elle a travaillé là-dessus beaucoup plus que moi, elle s'y connaît beaucoup plus que moi, donc je ne veux pas dire de bêtises. Dans l'entre-deux-guerres, quand on voit tous les procès intentés par Vionnet, par exemple, et les procès intentés en France et dans l'entourage proche, on a beaucoup de procès en contrefaçon qui s'adressent à des entrepreneurs, entrepreneuses aussi, en fait, qui font des copies, donc physiques, en tissu, hein, enfin en matière destinée à être portée. Donc il y a là toute une classification qui s'instaure. C'est vrai, comme vous le dites très très bien, que les Français ont obtenu une reconnaissance au niveau également de la poursuite des copistes en termes de gravure de mode, etc. Il y a toute la prévention qui s'installe par la chambre syndicale, avec la presse, l'instauration de relations avec la presse, avec un temps de publication accepté pour que ce soit des croquis ou des photos qui doivent être acceptés par la chambre syndicale. Donc là, la prévention se développe énormément pendant l'entre-deux-guerres. Là, avec votre question, j'ai aussi envie de revenir à l'affaire Milton, parce que moi, ce qui m'intéresse ici, surtout, c'est l'aspect transatlantique. Donc, c'est ça que je regarde le plus, c'est quand on a cette implication franco-américaine. Je pense que pour la presse, il faudrait regarder davantage les pays germaniques, et ça, c'est quelque chose que je connais très peu. Il faut aller regarder du côté du droit allemand, qui est très puissant aussi. En ce qui concerne l'affaire Milton, là, on a un service, ce qu'on appelle « sketch », en anglais, et Milton va donc faire de la reproduction de dessins. C'est un bulletin, c'est pas comme de la grande presse, c'est un bulletin, mais Milton va être condamné aux États-Unis sur la base de ce type de service-là. Donc on a aussi un droit qui est de plus en plus puissant et une condamnation explicite de la copie illicite, pas seulement physique de la robe, bien, mais aussi du véhicule, du médium qui permet de la reproduire. Avec là aussi la volonté par la Chambre syndicale de verrouiller, de cadenasser les temps de publication. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Il y a encore beaucoup de travail à faire aussi. Il y a beaucoup de... Sophie a un excellent projet de recherche là-dessus, sur le monde germanique notamment. Donc vraiment, ce sont des choses essentielles. Merci.
Bonjour. Est-ce qu'on n'assiste pas aujourd'hui à une banalisation de la copie, que ce soit au niveau du consommateur de mode, avec tout ce qu'il y a autour de la fast fashion, mais aussi au niveau des designers? On le voit avec la marque Vêtements aujourd'hui, qui a repris le logo DHL, qui en a fait un t-shirt, etc. Mais aussi au niveau des pratiques, avec tout ce qui se passe sur Internet, Instagram, les photos de mode qui sont reprises mais qui ne sont pas créditées, et aussi d'un point de vue juridique, puisqu'on sait que nombreuses affaires se règlent d'un point de vue privé avec des transactions entre les marques et les enseignes de fast fashion. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on en est où d'un point de vue jurisprudentiel et donc n'assistons pas à une banalisation de la copie ?
Merci beaucoup. C'est un nouveau sujet, ça. Il y a plein de choses à dire. Bon, alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la période actuelle, je suis vraiment une historienne. Hein, donc, vous devez prendre tout ça avec un grain de sel et vous êtes peut-être spécialiste du contemporain. Il y a la question de la massification des marchés, de la rapidité croissante des médias, qui n'a fait qu'augmenter. Et c'est quand on voit le travail des couturiers, ça sert toujours un peu le cœur de voir qu'ils essayent de ralentir les cycles, hein, de ralentir les accélérateurs, comme les appelait Barthes, hein, par exemple, ou d'autres, de ralentir les accélérateurs des cycles de mode, d'aller contre la fast fashion. Il y a une réflexion maintenant qui parle d'environnement, de conditions de production, qui veut aussi ralentir les choses, mais bon, c'est sans doute très marginal, hein, au regard de toute la massification. Il y aurait plein de choses à dire, y compris ce qu'une autre personne a évoqué plus tôt, qui est de changer un détail, de savoir, bon, hein, des grandes entreprises comme Zara qui savent aussi comment jouer pour copier, mais pas trop, ou seulement certaines choses, et arriver à gérer ça comme ça. Les entrepreneurs de mode ont aussi des avocats. Ce que faisait Madeleine Vionnet, c'est vraiment fascinant, parce que c'est déjà très tôt, mais maintenant ça s'est généralisé, et les entrepreneurs de mode construisent des portfolios. Et comme vous le dites très très bien, il y a plein de choses qui se règlent à l'amiable, qu'on voit déjà, par exemple, dans la chambre syndicale, dans les activités de la chambre syndicale, etc. Plein de choses se règlent à l'amiable, ce qui est le signe aussi d'une maturation de la propriété intellectuelle. Parce que c'est quelque part plus intéressant pour tout le monde d'arriver à s'arranger. C'est devenu un gros enjeu, et c'est vrai qu'à la fois, il y a ce côté... tout à fait paradoxal de se dire, mais on déploie une activité formidable contre un phénomène qui est aussi inéluctable. Donc, c'est assez fascinant, ces points de tension autour des pratiques. Et jusqu'où on peut aller, ou est-ce que c'est trop loin, est-ce qu'on doit ralentir les choses, et au final, toutes ces questions éthiques, est-ce que la copie très rapide, au fond, c'est aussi quelque chose qui est dommageable pour les conditions de production. Là, il faudrait que Nancy Green soit encore avec nous, parce que j'aurais envie de lui demander aussi ce qu'elle en pense, en termes notamment des pratiques de travail sur le terrain, etc. Je crois que là, les spécialistes auraient beaucoup, beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup pour l'ouverture de cette réflexion qui est, je pense, vraiment très, très importante.
C'est bien allumé. C'est allumé. Quand tu parlais des bruxellois, je pensais à une chose qui m'a toujours frappé dans l'histoire de la mode, et je me demandais juste si c'était vrai. C'est que dans les copies légales, comment dire, les étrangers pouvaient en faire, mais les Français ne pouvaient pas en faire. Est-ce que c'est le cas? C'était vraiment le cas pour les copies légales de la couture, de la haute Merci. Couture.
Merci pour cette question. C'est une question qui est... Tu soulèves vraiment un point très spécial de la couture pendant l'entre-deux-guerres. Tout ça se met en place avec la réorganisation de la chambre syndicale. C'est bien sûr les couturiers qui sont membres de la chambre syndicale, mais c'est presque tout le monde pendant l'entre-deux-guerres. C'est pas comme aujourd'hui où c'est vraiment les happy few. C'est un nombre très large quand même pendant l'entre-deux-guerres. Ça va jusqu'à plusieurs centaines de maisons. Et comme tu le dis très très bien, c'est tout à fait le cas. Les couturiers français vont rester fermés pendant l'entre-deux-guerres très très largement aux manufacturiers et aux grands magasins français. Alors là, on attend avec impatience la thèse de Florence Brachet-Chansor, qui aurait dû être avec nous, mais qui a un énorme lancement aux Galeries Lafayette, pour les Galeries Lafayette Champs-Élysées. Mais donc, je vous invite vraiment à regarder son travail qui arrive, parce que, au niveau des galeries, en tout cas, et ce qu'elle avait déjà montré dans son article à Guévillonnet, il y a des ambiguïtés. Il y a des ambiguïtés. Il y a ce qu'on trouve aussi du côté des manufacturiers français, l'idée qu'on regarde par le trou de la serrure, donc une certaine tolérance, etc. Mais c'est vrai que les manufacturiers français sont persona non grata au défilé, alors que les manufacturiers étrangers sont sur ces fameuses listes d'acheteurs. Et comme tu le dis très très bien, notamment les Bruxellois, alors quand on voit la distance entre Bruxelles et Paris, hein, c'est plus près que Bruxelles et Toulouse, on rigole un petit peu, hein, que Paris et Toulouse, pardon, ou que Paris et Marseille. Donc c'est assez drôle, c'est très paradoxal, ce sont des systèmes très complexes. Et cette question est discutée par la Chambre syndicale pendant l'entre-deux-guerres, avec vraiment des discussions assez dures, j'ai envie de dire. Et finalement, c'est Pierre Gerber, qui est à un moment donné président de la Chambre syndicale pendant les années 30, qui dit il ne faut pas ouvrir aux manufacturiers français pour des questions de prestige. Donc on vend aux manufacturiers, avec droit de reproduction légal, hein, on vend à l'étranger parce que c'est beaucoup plus prestigieux. Et il y a aussi toute la question de la clientèle locale. Comment on gère la clientèle locale? Et c'est ce qui va se passer de nouveau avec Dior aux États-Unis. Si on vend des lignes manufacturées, etc., comment on gère la clientèle qui achète la haute couture le plus cher, etc. Et donc, la chambre syndicale, en effet, et c'est paradoxal, ça génère plein de complications. Hein. Ça génère un système, oui, comme tu le dis avec Bruxelles, par exemple, avec des paradoxes terribles. Ça va changer en 44. La chambre syndicale se réunit et discute la situation, qu'est-ce qu'il faut faire, et décide, et c'est encore sous la présidence de Lelong, décide qu'après la guerre, on ouvrira aux manufacturiers. Et c'est acté en 1947, hein, le temps de redémarrer un petit peu cette économie française. Les toutes premières années, 45-46, les couturiers ne veulent pas trop exporter parce qu'ils ne sont pas prêts à répondre à la demande des acheteurs internationaux. Et puis en 47, il y a ces fameux accords Paris-Province qui se mettent en place. Et les couturiers de province, les manufacturiers français de province, les grands magasins peuvent venir au défilé, acheter, ils payent une caution. Et ça va, en fait, c'est très malin parce que ça va rapporter plein d'argent à la haute couture. Donc, ça va être vraiment un bon facteur de revenu pendant cet âge d'or qui est bien incarné par Dior. Voilà. Donc, merci beaucoup parce que c'est vrai que c'est un point qui est important.
Merci à toi.